Ok, ce soir, pourquoi devons-nous étudier la Bible? Je vous propose de voir dans la parole 5 points pour lesquels nous devons étudier la Bible, et puis 3 autres points qui nous disent comment approcher ou comment étudier la Bible. On prend Jésus comme exemple. Jésus a dit beaucoup de choses dans sa parole. Et là, je veux prendre ce que Jésus a dit principalement, pour savoir qu'est-ce que Jésus pensait de la parole. Okay? Comment, si vous deviez poser la question à Jésus, pourquoi on doit étudier la Bible, et puis comment on doit le faire, qu'est-ce que Jésus dirait. Donc, l'étude que l'on a ce soir sont basées sur les paroles de Jésus. Bien sûr, on va aller dans d'autres passages que les évangiles, n'est-ce pas? Mais c'est surtout basé sur les paroles de Jésus dans le Nouveau Testament. Donc, 5 points. Pourquoi nous devons étudier la Bible? Le premier point est le suivant. Si vous lisez les évangiles, vous allez rendre compte de la chose suivante. Pour peut-être la société dans laquelle on vit, la Bible n'est pas vraiment valorisée en général, n'est-ce pas? Il y a eu, par exemple, le Moyen-Âge, où les gens n'avaient pas vraiment accès à la parole de Dieu, et pourtant les gens cherchaient à être religieux, mais ils n'avaient pas accès à la parole de Dieu. Et ils cherchaient à être religieux. Maintenant, la Bible est imprimée, tout le monde presque a une Bible chez eux, même les gens athées ont au moins une copie de la Bible chez eux. Prolifération. Et pour ceux qui sont croyants, ils ont au moins 4, 5, voire 6 Bibles chez eux. Puis il y en a beaucoup qui prennent de la poussière. Donc malgré le fait que la Bible est autant répandue, on vit dans une société hyper immorale. Donc c'est comme si la Bible est là, mais elle ne produit pas l'effet qu'elle est supposée produire, en tout cas dans la société en général. Donc, pour que ça produise un effet, pour nous personnellement, ça demande une certaine implication. Donc, comment ça se fait que la Bible est en prolifération comme ça, mais la société est immorale? C'est parce que les gens ne voient pas la valeur qu'elle a. La Bible, là, si vous avez une Bible dans vos mains, ça vaut plus que la voiture dans laquelle vous êtes venu, ça vaut plus que la maison dans laquelle vous habitez, ça vaut plus que, quoi d'autre, je pourrais prendre votre super téléphone intelligent, ces choses auxquelles les gens accordent de l'importance aujourd'hui. La Bible vaut plus que tout ça. Les gens ont donné leur vie pour qu'on puisse avoir la Bible de manière accessible comme ça. Parce que les gens sous-estiment aussi la puissance qu'il y a dans la parole de Dieu. C'est la raison pour laquelle elle est là, mais elle ne produit pas l'effet désiré. Donc si vous parlez à Jésus, vous allez vous rendre compte que Jésus, il accordait une autorité, donc contrairement à ce qu'il y a dans la société en général, une autorité absolue à la parole de Dieu. À l'époque, lorsqu'un rabbin parlait, ou lorsque... un enseignant parlait, okay, il citait beaucoup d'autres rabbins. Okay, donc, je dis telle chose parce que rabbin un tel et un tel a dit telle chose. Ils avaient des références parmi des docteurs de la loi. Lorsque Jésus parle, il ne cite jamais un autre rabbin. Il dit toujours, il est écrit. Donc, lui, son autorité, c'était la parole de Dieu. Et puis, à l'époque, il n'y avait pas le Nouveau Testament, pardon. Donc, c'était les écrits de l'Ancien Testament. Lorsque Jésus parlait, c'était toujours, il est écrit. Jamais il citait un autre rabbin. Donc, il accordait, si vous voulez, l'autorité suprême à la parole de Dieu. Aussi, la raison pour laquelle il le faisait, c'est parce que l'autorité de la parole de Dieu dépendait directement de la pertinence du ministère de Jésus. Parce qu'il est venu et puis il disait qu'il était le Messie, qu'il est venu mourir pour les péchés du monde. Donc, l'Ancien Testament annonçait la venue de Jésus. Ça fait qu'il devait démontrer, à travers l'Ancien Testament, qu'il était le Messie à venir. Vous comprenez? C'est pour ça qu'il y a beaucoup de passages dans le Nouveau Testament où vous voyez, c'est écrit « afin que les Écritures fussent accomplies »,« afin que les Écritures fussent accomplies », etc., etc. Cette phrase revient souvent. Il y a beaucoup de prophéties dans la Bible par rapport à ce que Jésus devait faire une fois qu'il serait dans ce monde. Ouvrez vos Bibles dans Jean chapitre 19 et le verset 24. C'est notre premier exemple. Donc notre premier point, c'est l'autorité que Jésus accordait à la parole de Dieu. Dans Jean chapitre 19 et le verset 24, Jean chapitre 19 et le verset 24 est écrit. Donc Jésus est crucifié, n'est-ce pas? Puis est écrit ce que les soldats romains ont fait. Jean chapitre 19, verset 24. Ne la déchirons pas, en parlant de la tunique de Jésus, ne la déchirons pas, mais tirons au sort, à qui elle sera. Cela arriva afin que s'accomplisse cette parole de l'Écriture. Ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré au sort ma tunique. Voilà ce que firent les soldats. Donc ça, c'est une prophétie directe de ce que l'on trouve dans Psaume chapitre 22 et le verset 19. Allez dans Psaume chapitre 22 et le verset 19. Psaume chapitre 22 et le verset 19. Psaume chapitre 22 et le verset 19. C'est écrit, « Il se partage mes vêtements, il tire au sort ma tunique. » Donc ce qui a été écrit plus de 1000 ans avant la venue de Jésus, okay, c'est accompli parfaitement lorsqu'il est venu. Les soldats, effectivement, n'ont pas déchiré ses vêtements, mais ils l'ont tiré au sort. Et lorsque vous voyez les versets qui sont plus haut, toujours dans Psaume chapitre 22, à partir du verset 17, « Car des chiens m'environnent, une bande de scélérats rôde autour de moi. » Ils ont percé mes mains et mes pieds. Ils ont percé mes mains et mes pieds. C'est en référence à la crucifixion, n'est-ce pas? Verset 18. Je pourrais compter tous mes os. Eux, ils observent, ils me regardent. Je pourrais compter tous mes os. Si vous vous rappelez, Jésus, lorsqu'il a été crucifié, il n'est pas mort. Il est mort avant les autres, n'est-ce pas? Mais comme les autres n'étaient pas morts, lorsqu'on les a descendus de la croix, on leur a brisé les jambes pour pas qu'ils puissent s'enfuir. C'est au cas où ils seraient tentés d'arracher leurs mains, leurs pieds, puis de s'enfuir, on leur a brisé leurs jambes. Mais Jésus était déjà mort lorsque le coucher du soleil arrivait. Ça fait que Jésus, on a juste décidé de lui percer le côté, on ne l'a pas brisé ses os. Donc la prophétie qui est là, fait que je peux compter tous mes os, c'est accompli. Tout comme l'agneau de Pâques, okay, on ne brisait pas les os de l'agneau, parce que cet agneau représente Jésus. Autre chose, dans l'évangile selon Marc, chapitre 15, Jésus a dit, lorsqu'il était sur la croix, « Eli, Eli, lama sabachthani », ce qui signifie « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» N'est-ce pas? Toujours dans Psaume, chapitre 22, au verset 2, c'est écrit « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Accomplissement de la prophétie, encore une fois. Et puis, il y en a plein d'autres qu'on trouve dans la parole. Okay. Plus de 300 prophéties qui annonçaient comment est-ce que Jésus allait venir, puis qu'est-ce qu'il allait faire. Le fait qu'il allait être annoncé par une étoile, le fait qu'il allait naître d'une vierge, le fait qu'il allait être appelé l'agneau de Dieu, qui meurt pour les péchés du monde, le fait qu'il allait être rejeté par son peuple, le fait qu'il allait être crucifié, comme on vient de le voir, le fait qu'il allait faire 3 jours, 3 nuits dans la tombe, le fait qu'il allait ressusciter, le fait qu'il allait monter au ciel et aller à la droite de son Père. Donc l'autorité de la Bible était primordiale pour le ministère de Jésus. Je pense que ce point est clair. Point numéro 2, okay, de pourquoi nous devons étudier la parole de Dieu. Nous devons l'étudier parce que le but de la parole de Dieu, avant tout, c'est de trouver Jésus dans la Bible. Trouver Jésus dans la Bible. Donc on ne cherche pas des informations, on cherche une personne. Allez dans Jean chapitre 5 et verset 39 à 40. Jean chapitre 5, verset 39 à 40. Jean chapitre 5, verset 39 à 40. C'est écrit, « Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. » C'est-à-dire, vous allez dans la Bible et puis vous faites toutes sortes de recherches, etc. Mais moi qui suis l'objet de cette parole, moi qui suis le personnage central de la parole, vous ne voulez pas venir à moi. Autrement dit, vous manquez le point, vous manquez le but même de la parole de Dieu, qui est de découvrir une personne et pas juste des informations. Donc quand on va vers la parole de Dieu, on cherche à connaître Dieu et pas juste à savoir des faits historiques, puis l'histoire sur les Romains, et puis comment étaient les Juifs à l'époque. Ou alors doctrine, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça. Ça ne suffit pas pour connaître Dieu. Okay? Puis dans les prochaines présentations, on va voir cet aspect de Dieu plus personnel. Je propose de voir ça avec vous demain et dimanche. Okay? Jean, vous voyez aussi Jean chapitre 20 et les versets 30 et 31, toujours dans la même idée qu'on cherche une personne, n'est-ce pas, en étudiant la parole de Dieu. Jean chapitre 20, versets 30 et 31. Jean chapitre 20, verset 30 et 31, est écrit « Jésus a fait encore, en présence de ses disciples, beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. » mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez en Jésus, que Jésus, pardon, est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Donc ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Fils de Dieu et que vous ayez la vie. Autrement dit, ces choses ont été écrites, pas pour que vous ayez de l'information, mais pour que vous ayez le salut, la vie éternelle. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. N'est-ce pas? Donc, connaître une personne. C'est comme lorsque, pour ceux qui sont en couple, pour ceux qui sont mariés, ou pour ceux qui sont en couple, ou pour ceux qui ont déjà été amoureux, ceux qui incluent tout le monde ici, lorsque vous envoyez une lettre ou un email à la personne, ou un message texte, ou lorsque vous recevez de cette personne une information, vous ne regardez pas l'orthographe, la grammaire. Vous ne regardez pas les structures de phrases. Vous arrivez à déceler l'esprit qu'il y a derrière parce que vous aimez la personne. Si une autre personne vous envoie exactement la même phrase, ça ne veut pas dire la même chose. Et parce que c'est cette personne, okay, vous essayez de voir qu'est-ce qu'elle pense. Et puis quand il y a une sorte de chimie, vous décelez tout de suite, vous arrivez presque à anticiper ce que la personne pense. Parce que c'est une relation d'amour. Le texte est là pour connaître la personne, pas pour montrer son beau français. Donc c'est la même chose. Si on veut connaître Dieu, on doit lire la lettre d'amour qu'il nous a laissée, qui est la parole de Dieu. Point numéro 3, la raison pour laquelle nous devons étudier la Bible, parce que la Bible, la parole de Dieu, elle accomplit ce qu'elle dit. Moi, ce que je dis ne s'accomplit pas, parce que moi, je suis un être humain. Et ma parole a la valeur de celle d'un être humain. Mais Dieu, quand il parle, ce qui sort de sa bouche s'accomplit. Okay. Psaume chapitre 33 et le verset 6. Psaume chapitre 33 et le verset 6. Psaume chapitre 33 et le verset 6, il est écrit « Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel et toute leur armée par le souffle de sa bouche. » Donc comme on lit dans Genèse, et Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut, et Dieu dit, et Dieu dit, et Dieu dit, et Dieu dit. Toute la méthode de création de Dieu s'est basée sur sa parole, ce qui est vraiment spécial. N'importe, ben, les êtres humains, la façon dont on opère, si on veut créer quelque chose, c'est, ben, il s'est mis à travailler, il a pensé, il a écrit, ils ont discuté, ils ont fait un brainstorming, il a creusé. Tu vois toujours de l'action, de la sueur, de la transpiration. Dieu parle et la chose s'accomplit. Ça, c'est à la création, et puis c'était la même puissance qu'il utilisait lorsqu'il performait ses miracles, lorsque Jésus est venu. Parce qu'on disait qu'il chassait les démons par la parole de Dieu. Ok? Puis un autre exemple que je vous donnais dans, cette fois dans le Nouveau Testament par rapport à ça, c'est dans Matthieu chapitre 8. Matthieu chapitre 8. Ces histoires nous ont été laissées pour que nous puissions comprendre l'importance de la parole de Dieu et puis qu'elle a le pouvoir d'accomplir ce qu'elle dit. Matthieu chapitre 8, à partir du verset... Matthieu chapitre 8, à partir du verset 5. Okay. On va lire jusqu'au verset 13 parce que ça illustre très bien le point que l'on veut montrer. Okay. 5. Comme Jésus entrait dans Capernaüm, un centenier l'aborda, le priant et disant : Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Jésus lui dit : J'irai et je le guérirai. Le centenier répondit : Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot. Dis seulement quoi ? Un mot, autrement dit, parle. Okay? Et qu'est-ce qui va se passer ? Et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un va et il va, à l'autre viens et il vient. Et à mon serviteur fais cela et il le fait. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement et dit à ceux qui le suivaient : Je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Okay. La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu, donc une confiance dans la parole de Dieu. Puis Jésus a loué cet homme qui n'était même pas un israélite, parce qu'il a compris ça, ce concept, que la parole de Dieu accomplit ce qu'elle dit. Tu n'as pas besoin de venir chez moi et faire toute ta cérémonie. Fais, dis un mot, et mon serviteur sera guéri. Verset 11. Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront en table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Puis Jésus dit au centenier, va qu'il te soit fait selon ta foi. Et alors même, le serviteur fut guéri. Que je me demandais, c'était quoi, c'est un chien? Ok. J'ai presque été distrait. Ok. Ok. Donc la parole de Dieu a le pouvoir d'accomplir ce qu'elle dit. Dieu dit, ma parole ne retourne pas à moi sans produire son effet. Quatrième point très important de la parole de Dieu, c'est elle. Puis ça, il faut l'expérimenter pour le comprendre. Comment est-ce que juste une parole peut te donner le pouvoir d'avoir la victoire sur le péché? Parce que la parole de Dieu nous donne la puissance d'avoir la victoire sur le péché. Ça, il faut l'expérimenter pour le comprendre. Jésus l'a donné un parfait exemple, c'est dans Matthieu chapitre 4, n'est-ce pas? La tentation de Jésus dans le désert. Matthieu chapitre 4. Nous allons lire les versets 1 à 11. Matthieu chapitre 4. C'est fait. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Donc les conditions sont vraiment rudes. Okay? Il a tout ce qu'il faut là pour succomber au péché. Verset 3. Le tentateur s'étant approché lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Okay? » Donc intéressant la façon dont Jésus répond. Quand on lit ça au début, lorsqu'on n'est peut-être pas familier avec la parole de Dieu, lorsqu'on n'est pas chrétien, je me demande pourquoi est-ce que ça permet de contrecarrer le péché? Parce que tout le péché commence, n'est-ce pas, dans votre tête. Le péché, ça, c'est une pensée. Okay? Donc tu sèmes une pensée, tu sèmes une action. Tu sèmes une action, tu sèmes une habitude, tu sèmes une habitude, tu sèmes un caractère, tu sèmes un caractère, tu sèmes une destinée. Tout commence dans ta pensée. Donc, il faut briser le péché dès la base, dès la pensée. L'ange vient et se présente devant Jésus, qui est l'ange Lucifer. Mais bien sûr, il ne s'est pas présenté avec ses cornes rouges et puis sa queue. Il s'est présenté comme un ange de lumière. Alors, comment est-ce que Jésus a fait pour savoir que c'était Satan et puis pas un ange de lumière? À cause du doute qu'il a mis. Le diable arrive et puis dit, si tu es fils de Dieu, fais ceci. Est-ce que Jésus pouvait transformer vraiment ces pierres en pain? Oui. Donc c'était vraiment une tentation pour lui. Si le diable vient me dire transforme ces pierres en pain, ce n'est pas une tentation pour moi parce que de toute façon, je ne suis pas en mesure de le faire. Mais Jésus, comme il est de Dieu, c'était une tentation pour lui parce qu'il allait utiliser un pouvoir que Dieu ne lui avait pas permis d'utiliser à ce moment. Mais comme il a mis le doute, okay, sur la parole de Dieu, il a su que cet ange de lumière était en fait Lucifer. Pourquoi? Parce que dans Matthieu chapitre 3, juste au-dessus, Jésus a été baptisé. Et lorsqu'il a été baptisé, le Père a dit, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Ça, c'est la parole de Dieu. Puis après, l'autre dit, « Si tu es fils de Dieu, c'est vrai que ça ne marche pas. » Qu'est-ce que tu veux dire si je suis fils de Dieu? Mon Père a dit que je le suis. Donc, pour pouvoir avoir la victoire sur le péché, il faut savoir ce que la parole de Dieu dit. Il faut pouvoir dire « il est écrit ». Donc, si tu ne sais pas qu'il est écrit, comment est-ce que tu vas réagir? Ou si tu sais peut-être qu'il est écrit, mais tu ne sais pas où il est écrit. Encore, si tu ne sais pas où il est écrit, encore ça va. Mais tu ne sais même pas si c'est écrit. Est-ce que j'ai lu ça dans la Bible ou est-ce que j'ai lu ça dans un roman? Tu ne sais plus. Là, tu es une proie facile. Okay, pour l'ami. Donc, connaître la parole de Dieu. Puis vraiment la connaître fermement. Parce que là, le diable dit, ah oui, tu veux jouer avec la parole de Dieu, ok. On va aller avec la parole de Dieu, verset 5. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple, et lui dit, si tu es le fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges, à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Donc là, Satan est en train de citer un psaume, en train de citer la parole de Dieu. Sauf qu'il a omis un verset qui dit « quand tu marches dans ses voies ». C'est-à-dire, pourquoi est-ce que c'était une tentation pour Jésus? C'est parce qu'à l'époque, les gens croyaient toutes sortes de choses sur les messies, donc s'ils se jetaient, ça allait comme prouver que Dieu était avec lui, et puis ça allait être une tentation pour Jésus. Pourquoi? Parce que ça allait Il était en train de dire, si tu fais ça, les gens vont croire que tu es le Messie. Puis c'est ça que tu veux. Oui, mais Dieu a dit, si tu marches dans ses voies. Donc là, le péché, la tentation là, c'était le péché de la présomption. C'est-à-dire réclamer les promesses de Dieu sans obéir. C'est comme aller à un examen. Seigneur, aide-moi pour cet examen, puis tu n'as pas étudié. Ben, écoute, tu vas couler. Vraiment, il y a... Dieu ne fait pas ce genre de miracle parce que ça nous encourage dans le péché. Okay? Donc Dieu, oui, il veut faire des miracles, mais quand tu es dans l'obéissance, quand tu réponds aux conditions de la promesse, mais lorsque tu ne réponds pas aux conditions de la promesse, tu rentres dans le péché de la présomption. Donc là, c'était plus subtil. La première chose, c'est juste, si tu es fils de Dieu, là, il se rappelle ce que le Père a dit, que ça ne marche pas. La deuxième, il va dans la parole de Dieu, mais il manque un bout. Jésus dit, oh, que je ne suis pas dans l'obéissance, présomption, ça ne marche pas non plus. Les gens vont croire que je suis le Messie, mais par un autre moyen. Puis là, ensuite, la tentation ultime. Verset 7, Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Okay, donc, okay, c'est tenter Dieu. Verset 8. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Okay. Alors le diable le laissa, et voici les anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Okay. Là, il y a une grande leçon pour nous. De ce quatrième point vraiment important, qui est le fait que la parole de Dieu nous permet d'avoir la victoire sur le péché. Première chose, il faut savoir qu'est-ce qui est écrit et où c'est écrit. Okay? Deuxième chose, il faut savoir détecter le péché de la présomption. C'est-à-dire, prendre la parole de Dieu, mais biaiser un peu, et puis tu tombes dans le piège. Si Jésus avait sauté, blaou, écrasé par terre, et puis plus de Messie, et puis la mission s'arrêtait là. Ou alors, s'il ne mourait pas, jambes brisées, en tout cas son ministère était minité, il y aurait un problème, puis ça aurait été un péché, donc le plan de la rédemption n'aurait pas marché. Donc ça monte. Puis lorsque vous ne tombez pas encore dans la présomption, la troisième étape, c'est de vous en mettre plein la vue. Mais vraiment plein la vue, vraiment le rêve, quoi. Tu te prosternes et tu m'adores, tous ces royaumes pour lesquels tu es venu, je te les donne, c'est pas pour ça que tu es venu. C'est pas pour ça que tu as quitté la gloire de ton père. Et je vais te faciliter la tâche, tu ne feras même pas être crucifié et puis tout le reste. L'ennemi vous en met plein la vue. Et là, il faut que vous n'ayez aucun orgueil de la vie qui vous pousse à accepter l'offre. Parce que lorsqu'on vous en met plein la vue et que c'est une tentation, le piège derrière, c'est qu'il y a toujours quelque chose par rapport à l'adoration qui ne marche pas. Il y a toujours quelque chose par rapport à l'adoration qui ne marche pas. Puis là, ça a été prosterner devant Satan. Quelle audace! Comment est-ce qu'une créature peut demander à Dieu de se prosterner devant lui? Il faut vraiment être animé de l'esprit du mal pour faire ça, à Lucifer. Donc, et puis ensuite, si on résiste, Dieu nous envoie son secours par la suite parce que les anges sont venus et ont servi Jésus. Si on tombe, parce que parfois on tombe, on est être humain et Jésus vient nous secourir aussi, mais il veut qu'on apprenne à avoir la victoire, okay, comme Jésus, parce que c'est possible. Il n'a pas utilisé de moyens surnaturels. Ce qu'il a utilisé nous est parfaitement accessible. Point numéro 5. Pourquoi est-ce qu'on doit étudier la parole de Dieu? Parce que la parole de Dieu, la Bible dit, la parole de Dieu est une semence. La parole de Dieu est une semence, une petite graine qu'on plante dans la terre. Luc chapitre 8 et le verset 11. Luc chapitre 8 et le verset 11. Donc Jésus donne la parabole du semeur dans les versets précédents, okay, et ensuite il explique. Vous avez remarqué que Jésus donne des paraboles dans la Bible, mais il n'explique pas toujours ce que veut dire la parabole. Parfois c'est à nous, en étudiant la Bible, en comparant des versets, de comprendre qu'est-ce que Jésus voulait dire. Mais lorsque Jésus vous explique la parabole, allez-y, puis regardez bien, parce qu'il y a des trésors là. Okay. Donc dans Luc chapitre 8 et le verset 11, il dit « Voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Oui. La semence, c'est la parole de Dieu. Puis plus tard, il va dire que la terre, ça représente notre cœur. Donc la parole de Dieu est comme une semence plantée dans le cœur. Ça veut dire que quoi? Est-ce que lorsqu'on plante une semence, ça produit le fruit tout de suite? Non, il faut un certain temps, il faut une certaine maturité, okay? Il faut un certain entretien pour que ça produise le fruit. Qu'est-ce qu'on attend? C'est le fruit. Si ça ne produit pas un fruit à un moment donné, c'est qu'il n'y a pas de semence, il y a un problème. N'est-ce pas? Puis là, la parole aussi, c'est une semence. C'est le parallèle que l'on peut faire. Si vous prenez une graine et puis que vous la mettez là, sur la chaise, est-ce qu'elle va pousser? Est-ce qu'elle va porter le fruit à un moment donné, là, comme par magie, pousser sur la chaise? Jamais. C'est seulement lorsqu'elle est à l'intérieur, plantée, qu'elle porte le fruit. C'est que lorsque la Bible est là juste en surface, okay, et qu'elle ne va pas jusqu'au profond dans votre cœur, le fruit ne viendra pas. Il faut vraiment que ça aille à l'intérieur pour faire son effet. Parle de Dieu est comparé à du pain aussi. Lorsque vous voyez la nourriture devant vous, lorsque vous voyez la nourriture dans les magazines, ça ne vous nourrit pas. Là. Il faut que ce soit dans votre ventre pour que ça ait sa valeur. Okay? Donc, tant que ce n'est pas dedans, ça ne sert à rien. Ça a l'air simple comme concept, mais c'est vraiment important de comprendre que la parole de Dieu doit être à l'intérieur et profondément à l'intérieur. Pas juste sur la surface du sol comme ça, vraiment planté. Et l'autre image que je pourrais donner, ce serait la parole de Dieu comparée aussi à comme du levain. Levain, ce que ça produit. Si vous faites votre pain et puis que vous mettez juste ce levain au-dessus du pain, ben le pain ne va pas vraiment lever, n'est-ce pas? Il ne va pas avoir d'effet. Ça doit être mélangé à l'intérieur pour qu'à la cuisson, ça puisse lever. Donc à chaque fois, cette idée de ça doit être dedans, ça doit être dedans, ça doit être à l'intérieur pour produire son fruit. Ok, maintenant Jésus a donné trois aspects sur comment maintenant approcher la parole de Dieu. Okay. Le premier aspect, c'est que lorsque l'on étudie la Bible, okay, on doit la considérer comme un trésor. C'est la parabole qu'on trouve dans Matthieu chapitre 13, verset 44. C'est dit, le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. Matthieu chapitre 13, verset 44. Que le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache. Et dans sa joie, il va prendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Si vous avez donc un champ, imaginez tout ce que le monsieur peut avoir, je crois, par une maison, peut-être une résidence secondaire. Aujourd'hui, ce serait une voiture et puis d'autres biens, des économies en banque. Tout ça pour aller acheter un champ. Okay? Pourquoi? Parce que dans ce champ, il y a un trésor. Ça veut dire que ce trésor a plus de valeur que tout ce qu'il a, logiquement. Sinon, il n'aurait pas fait l'échange. C'est pour que lorsqu'on approche la parole de Dieu, on doit vraiment l'approcher comme quelque chose qui a énormément de valeur. Si vous l'approchez comme quelque chose de vulgaire, ben vous allez en dégager juste des choses vulgaires. Et si vous l'approchez comme quelque chose qui a beaucoup de valeur, vous allez en tirer beaucoup. Et la parole de Dieu dit, ce trésor est caché dans le champ. C'est-à-dire, tu ne te promènes pas dans le champ et puis tu le vois facilement, il apparaît devant toi. Il est caché dans le champ. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il faut faire un effort de creuser, de chercher le trésor. Donc quand on lit la parole de Dieu, il y a des vérités en surface. Puis on va voir ça, c'est dans une des études, on va montrer ça, les différentes dimensions là, c'est quoi la dimension terre à terre versus les autres dimensions que l'on peut voir en étudiant la parole de Dieu. Et il y a les dimensions qu'on dégage, qui viennent vraiment nourrir notre âme lorsque l'on va en profondeur dans la parole de Dieu, pour y trouver ce trésor. Et la parabole qui suit est semblable, au verset 45 et 46, il dit, le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix et est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a acheté. Encore une fois, quelque chose de valeur plus que tout ce que la personne possédait. Deuxième point, lorsqu'on approche la parole de Dieu. Qui est l'auteur de la parole de Dieu? Qui est l'auteur? Oui, l'expression Saint-Esprit, parce que la parole de Dieu dit que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont écrit la parole de Dieu. Poussé par le Saint-Esprit. Donc, c'est-à-dire le Saint-Esprit est derrière tous les auteurs. Des différents textes que l'on a dans la parole. Donc, qui est la meilleure personne pour nous dire vraiment qu'est-ce que la Bible veut dire? L'auteur qui est le Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit doit nous guider dans nos études. Jean, chapitre 14, verset 26. Jean, chapitre 14 et le verset 26. Jean 14, verset 26, écrit, « Mais le Consolateur, le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. C'est pour ça qu'avant d'étudier la Bible, il est recommandé de prier pour vraiment demander l'assistance du Saint-Esprit pour qu'il nous ouvre les yeux. Parce que les choses, ce n'est pas avec notre entendement humain qu'on va parvenir à vraiment comprendre ce qu'elle veut dire. Ou qu'est-ce qu'elle veut nous dire comme vérité présente. C'est seulement le Saint-Esprit qui peut nous révéler cela. Et dernier point qui souvent bloque, genre les gens vont peut-être voir ça comme un trésor, les gens vont peut-être prier pour avoir le Saint-Esprit, mais le dernier point là, qui est comment il faut approcher la Bible, qui souvent bloque la majorité, c'est que si on veut vraiment que la parole de Dieu ait son effet, il faut l'approcher avec l'intention sincère de savoir ce que Dieu veut vous dire et d'être prêt à y obéir. L'obéissance, c'est primordial. Si tu approches la parole de Dieu, mais que tu n'as pas le désir de l'obéir, autrement dit, tu essaies de tromper Dieu, etc., ça ne marche plus. Elle ne peut pas avoir l'effet désiré. Dieu connaît ton cœur, Dieu lit dans les pensées. Et c'est seulement le cœur sincère qui peut vraiment bénéficier de ce que la Bible dit. Texte en référence par rapport à cela. Matthieu chapitre 7 et le verset 21. Ensuite, nous irons dans Jean. Quand on va dans Matthieu 7, verset 21. Matthieu chapitre 7 et le verset 21. Et c'est ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. On avait dit tout à l'heure que le but de connaître Jésus dans la parole, c'est afin qu'on croit qu'il est le Fils de Dieu et puis qu'on ait la vie. Okay. Donc il y en a ici qui vont dire Seigneur, Seigneur, mais qui n'auront pas la vie. Pourquoi? Parce qu'ils ne font pas ce que Dieu leur demande de faire. Ils n'ont pas l'intention d'obéir. Ils veulent juste des informations, ils veulent juste, si possible, avoir des bénédictions sans obéir. Ça ne marche pas. Et souvent, c'est là que des chrétiens bloquent à un moment donné. Judas, il était près de Jésus, mais il ne voulait pas abandonner l'avarice, il ne voulait pas abandonner son amour de l'argent. Donc même s'il était parmi les 12, non seulement c'était un disciple, mais même s'il a eu le titre d'apôtre, ça ne lui a servi à rien. Il est mort pendu et il ne connaîtra pas le ciel. Donc l'intention du cœur d'obéir est vraiment, vraiment importante. Puis un autre texte pour finir, Jean chapitre 7 et le verset 17. C'est dans la même veine, Jean chapitre 7 et le verset 17. C'est écrit, si quelqu'un veut faire sa volonté, si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu ou si je parle de mon chef. S'il veut faire sa volonté, s'il veut obéir, parle de Dieu, dit encore que Dieu donne le Saint-Esprit à ceux qui lui obéissent. On n'aime pas ce mot obéissance, mais Dieu n'est pas seulement notre Sauveur, c'est aussi notre Créateur, c'est aussi notre Rédempteur. Il a autorité sur nous, il a autorité sur qu'est-ce qu'on a le droit de faire dans nos vies et qu'est-ce qu'il est mieux de ne pas faire. Lorsque l'on se nourrit physiquement, on se nourrit à travers l'organe de la bouche, on met la nourriture dans notre bouche, on la mastique, on l'envoie dans notre ventre. Lorsqu'on se nourrit spirituellement, on se nourrit avec
les yeux.
Oui, avec les yeux. Je me disais comment ça peut être plus clair. Avec les yeux, parce qu'on lit la parole, elle rentre dans notre être à travers nos yeux. Mais on reçoit aussi la parole avec nos oreilles, parce qu'on entend prêcher, ou on entend, on entend prêcher, on entend quelqu'un d'autre la proclamer. Si on nourrit notre corps avec de la nourriture, du fast-food, de la mauvaise nourriture, quel est l'impact ça va avoir sur notre santé? On va pas être en santé, on va être malade et puis peut-être aller jusqu'à mourir, n'est-ce pas? Si on n'a rien pour nourrir notre âme spirituelle ou si on met du fast-food spirituel, qu'est-ce qui va arriver à notre santé spirituelle? On sera aussi chancelant, on sera malade spirituel et puis on va avoir envie, on va être en famine, on va avoir envie de manger les autres. Quand je dis manger les autres, c'est genre se mettre en colère, c'est pécher, c'est parler mal. Okay, derrière la personne, parce que ton âme n'est pas nourrie, tu réagis comme quelqu'un qui a faim et tu détruis les gens par le péché. Donc c'est ça que j'avais comme réflexion ce soir sur l'importance, sur pourquoi étudier la parole de Dieu, et je vais être avec vous demain matin dans la méditation de 7h à 8h et puis également dimanche matin. Puis les autres présentations seront faites par William, par Wesley, par Karine et puis par Daniel. Et puis aussi, on va avoir l'école du sabbat demain faite par Gabriel. C'est que mettez-vous debout, on va prier là-dessus. Que Dieu impressionne notre cœur. Que Dieu impressionne notre cœur d'appliquer ces principes simples, mais pour multiples raisons. En fait, la raison principale, je dirais, c'est vraiment le désir sincère. Je pense que la sincérité est vraiment la clé autour de ça, qui fait que parfois on ne les applique pas. Donc, courbons la tête pour la prière. À notre Père, notre Dieu, merci d'avoir révélé dans ta parole, Seigneur, pourquoi est-ce que nous devons étudier la Bible et puis comment est-ce que nous devons l'approcher pour qu'elle ait vraiment l'impact désiré. Permets, Seigneur, que nous soyons vraiment transformés par cette parole, Seigneur, régénérés, et qu'elle puisse nous permettre d'être des personnes qui reflètent de mieux en mieux ton image, ton caractère, et que nous aidions les autres à faire de même. C'est au nom de ton Fils Jésus que nous te prions. Amen.